Livre du Deutéronome. Introduction. Le caractère du Deutéronome est tout aussi distinct que celui de chacune des quatre autres parties du Pentateuque. À en juger d'après le titre du livre, nous pourrions supposer qu'il n'est qu'une simple répétition des précédents. Mais ce serait une erreur. Dieu ne se répète jamais, ni dans sa parole ni dans ses œuvres. Où que nous discernions notre Dieu, que ce soit dans les pages sacrées ou dans le vaste champ de la création, nous voyons une variété infinie, une plénitude divine, un plan arrêté. Du commencement à la fin de la Bible, il ne se trouve pas une phrase superflue, pas un mot de trop, car toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Beaucoup d'érudits portant le nom de chrétiens se moquent de la foi à une entière inspiration des Écritures. Ils pensent faire preuve d'un grand savoir et d'un esprit très développé en critiquant le précieux volume de Dieu et en y trouvant des imperfections. Ils se permettent de porter leur jugement sur la Bible comme si elle n'était qu'une composition humaine. Au fond, c'est Dieu lui-même qu'ils jugent. Le résultat de tout cela est l'obscurité et la confusion les plus complètes, soit pour eux-mêmes, soit pour ceux qui les écoutent. Le livre du Deutéronome a une place qui lui est propre. Le but qu'il se propose est aussi distinct que possible. Du commencement à la fin, il cherche à inculquer la grande leçon de l'obéissance. Et cela non seulement quant à la lettre, mais dans un esprit d'amour et de crainte. Il s'agit d'une obéissance fondée sur des relations d'intimité. Moïse, le vieux législateur, le fidèle et bien-aimé serviteur de l'Éternel, allait prendre congé de la congrégation. Ils s'en allaient au ciel, et les fils d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain. C'est ce qui rend ces dernières exhortations si solennelles et si touchantes. Ils passent en revue toute leur vie dans le désert. Ils rappellent les circonstances et les phases de leurs 40 années de pèlerinage d'une manière bien propre à toucher leur cœur. Ces discours s'adressent à nous avec d'autant plus d'à-propos qu'à ceux auxquels ils étaient destinés. N'en est-il pas ainsi de toute l'Écriture ? Nous sommes sans cesse frappés de sa merveilleuse puissance d'adaptation à nos propres circonstances et à notre état d'âme. Elle nous parle avec la même fraîcheur que si elle était dictée aujourd'hui et exprès pour nous. C'est le livre même de Dieu, sa parfaite révélation. C'est sa propre voix s'adressant à chacun de nous. C'est un livre pour tous les âges, pour toutes les classes, pour toutes les conditions. Elle parle un langage si simple qu'un enfant peut le comprendre, et en même temps si profond que la plus vaste intelligence ne peut l'épuiser. Avant tout, elle va droit au cœur. Elle touche les sources les plus cachées de notre être moral. Elle nous juge complètement. Comme nous le dit l'apôtre inspiré, elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. L'Écriture montre une connaissance parfaite de l'homme à tous les degrés de son histoire. La vie et l'âme de l'homme sont décrites de main de maître dans ce volume admirable que notre Dieu a composé pour notre instruction. Quel privilège de posséder un tel livre, d'avoir entre les mains une révélation divine, de posséder l'histoire, donnée par Dieu, du passé, du présent et de l'avenir. Mais ce livre juge l'homme, sa conduite, son cœur. Il lui dit la vérité sur tout ce qu'il concerne. Pour cette raison, l'homme inconverti n'aime pas le livre de Dieu. Pour cette raison aussi, les incrédules ont de tout temps travaillé fort et ferme pour découvrir des imperfections et des contradictions dans les saintes Écritures. Les ennemis de la Bible ne se trouvent pas seulement dans les classes vulgaires et ignorantes, mais parmi les gens instruits, cultivés, de bonne réputation. Ils ne peuvent supporter la Bible parce qu'elle les met à nu et leur dit la vérité sur eux-mêmes et sur le monde auquel ils appartiennent. Il en fut exactement de même pour la parole vivante, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre. Les hommes le haïssaient parce qu'il leur disait la vérité. Son ministère, ses paroles, sa conduite, sa vie entière était un témoignage contre le monde. De là, l'opposition amère et persistante de celui-ci. Les conducteurs religieux cherchaient à l'enlacer dans ses paroles, Matthieu 22, verset 15, afin d'avoir un prétexte pour l'accuser et pour le livrer au gouverneur. Il est de toute importance que nous comprenions bien d'où provient réellement l'opposition à la parole de Dieu, que ce soit à la parole vivante ou à la parole écrite. Le diable hait la parole de Dieu d'une parfaite haine. Il se sert des savants incrédules pour écrire des livres destinés à prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'elle ne saurait l'être, vu qu'il s'y trouve des erreurs et des contradictions, et qu'il y a dans l'Ancien Testament des lois, des institutions, des coutumes et des cérémonies indignes d'un Dieu bon et miséricordieux. À cette catégorie d'arguments, nous n'avons qu'une courte réponse à faire. De tous ces savants incrédules, nous disons simplement « Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. » 1 Timothée 1, verset 7. Il se peut qu'ils soient très instruits, des érudits, de profonds philosophes. Il se peut encore qu'ils soient très aimables, estimables dans leur vie privée et respectés dans ce monde. Mais en tant qu'inconvertis et ne possédant pas l'Esprit de Dieu, ils sont parfaitement incapables de porter un jugement à l'égard des saintes Écritures. L'apôtre nous dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. » 1 Corinthiens 2, verset 14. Voilà qui est concluant. Il parle ici de l'homme dans son état naturel, quelque cultivé qu'il puisse être. Il ne parle pas d'une certaine classe d'homme, mais simplement de l'homme inconverti, de l'homme ne possédant pas l'Esprit de Dieu, de l'homme naturel, que ce soit un savant philosophe ou un pauvre ignorant. Cet homme ne peut connaître les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Comment donc pourrait-il porter un jugement sur la parole de Dieu? Comment peut-il se permettre de décider de ce qui est digne de Dieu et de ce qui ne l'est pas? Et s'il a l'audace de le faire, qui doit l'écouter? Personne. Ce n'est que par l'Esprit, qui a lui-même inspiré les Saintes Écritures, que celles-ci peuvent être comprises et appréciées. Nous recevons la parole de Dieu parce qu'elle possède sa propre autorité. Si l'homme peut la juger et raisonner à son sujet, elle n'est plus du tout la parole de Dieu. Si Dieu nous a donné une révélation, elle doit être parfaite à tous égards, et, comme telle, au-dessus de tout jugement humain. L'homme n'est pas plus capable de juger l'Écriture qu'il ne l'est de juger Dieu. C'est l'Écriture qui juge l'homme, et non l'homme l'Écriture. La question posée par le serpent ancien dans le jardin d'Éden a été répétée de siècle en siècle par toute espèce de sceptique, de rationaliste et d'incrédule. Quoi ? Dieu a dit, Genèse 3, verset 1. Nous répondons avec bonheur, oui, béni soit-il, il nous a parlé, il nous a révélé sa volonté, il nous a donné les saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Et encore, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Romains 15, verset 4. La parole de Dieu est un rocher contre lequel toutes les vagues de l'incrédulité se brisent dans leur misérable impuissance, le laissant debout dans sa puissance divine et éternelle. Rien ne peut ébranler la parole de Dieu. Elle reste immuable dans sa gloire, en dépit de tous les assauts de l'ennemi, siècle après siècle. Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Psaume 119, verset 89. Que nous reste-t-il à faire ? Simplement ceci, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. C'est là le secret de la paix. Le cœur est lié au cœur même de Dieu par le moyen de sa précieuse parole. Pour celui qui a vraiment appris à croire à la parole de Dieu et à se reposer sur l'autorité de l'Écriture sainte, tous les livres qui ont été dictés par l'incrédulité sont sans aucune valeur. Ils montrent l'ignorance et la présomption de leurs auteurs, mais quant à l'Écriture, ils la laissent ce qu'elle a toujours été et sera toujours, aussi ferme que le trône de Dieu. Les assauts des incrédules ne peuvent ébranler ni le trône de Dieu ni sa parole. Et ils ne peuvent ébranler non plus la paix qui remplit le cœur de celui qui se repose sur ce fondement inattaquable. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et pour eux il n'y a pas de chute. Psaume 119, verset 165. La parole de notre Dieu demeure à toujours. Ésaïe 40, verset 8. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. 1 Pierre 1, verset 25. La parole qui apporte la bonne nouvelle du salut aux pauvres pécheurs perdus, et qui l'apporte de la part de Dieu, est la parole de notre Dieu qui demeure à toujours. Par conséquent, notre paix et notre salut sont aussi stables que la parole sur laquelle ils sont fondés. Si toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe, alors de quelle valeur sont les arguments des incrédules? Ils n'ont pas plus de valeur que l'herbe séchée ou la fleur fanée, et c'est ce qu'ils reconnaîtront tôt ou tard. Celui qui nous a donné la Bible peut aussi nous donner la certitude que ce livre précieux est de lui. L'Esprit, qui a inspiré les divers écrivains des Saintes Écritures, peut nous faire comprendre que ces Écritures sont la voix même de Dieu s'adressant à nous. Mais il nous faut l'Esprit pour cela. Car comme nous l'avons déjà vu, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas avec certitude que la Bible est la parole de Dieu, aucun homme ou assemblée d'hommes ne pourront le faire, et si l'Esprit nous donne cette assurance bénie, nous n'avons besoin d'aucun témoignage humain. Dieu seul peut nous donner la certitude qu'il a parlé dans sa parole, et quand il la donne, tous les arguments, tous les raisonnements des incrédules anciens et modernes ne sont que comme la poussière soulevée par le vent. Le vrai croyant les repousse comme étant des choses sans valeur et se repose en paix sur cette révélation que notre Dieu a daigné nous donner. L'Écriture sainte ayant été donnée de Dieu est complète dans le sens le plus élevé et le plus large de ce mot. Elle n'a pas besoin d'une autorité humaine pour l'accréditer, ni d'une voix humaine pour la vanter. Elle parle pour elle-même et se recommande elle-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire et d'obéir, non de raisonner ou de discuter. Dieu a parlé. Notre devoir est d'écouter et de lui accorder une respectueuse et entière obéissance. Ce sur quoi nous désirons insister tout particulièrement auprès de tous les chrétiens, c'est l'attitude du cœur exprimée par le psalmiste « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. » Psaume 119, verset 11. Nous pouvons être sûrs que cela est agréable à Dieu, car il dit « C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Ésaïe 66, verset 2. C'est là le secret de notre sécurité. Notre connaissance des Écritures peut être fort limitée, mais si notre respect pour elles est profond, nous serons préservés d'erreurs et nous croîtrons dans la connaissance de Dieu, de Christ et de la parole écrite. Notre vie divine sera entretenue et fortifiée. La parole de Dieu deviendra de plus en plus précieuse à nos âmes et le Saint-Esprit nous en fera connaître toujours mieux la profondeur, la plénitude et la gloire. Tous les éléments de la vérité seront gardés à leur vraie place dans le vaste cercle de la révélation divine, dont le centre éternel est la personne bénie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.